Radio Présence à Castelsarrasin 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour ce présent ce midi. Notez, chers amis auditeurs, que nous bouleversons un petit peu, bien sûr, les programmes de Radio Présence. Sachez que ce soir, à partir de 18h et jusqu'à 19h30, nous avons une émission spéciale, spéciale conclave, et puisque vous savez, le conclave donc s'ouvre cet après-midi. Voilà, donc restez bien avec nous. Donc nous bouleversons un petit peu les programmes ce soir, 18h, 19h30. Émission spéciale. Pour l'heure, le sommaire de ce présence midi, dans quelques instants, puisqu'on parlait du conclave, nous serons avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le père Michel Dauban, à entrée de conclave. Comment le sanctuaire de Lourdes vit-il cet événement d'église? Eh bien, nous aurons donc la réponse dans quelques instants, donc, du recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, qui sera au micro de David Torchala. Bien sûr, à midi et demi, nous aurons le journal de la mi-journée, et puis un jour, un livre, un auteur. On parlera d'un polar aujourd'hui qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas plus mal, puisque demain ce sera le 8 mai. Et puis on parlera aussi d'un métier de l'édition, métier du livre. Il y a ce qu'on appelle les graphistes. Et nous aurons donc cette dame, cette auteure qui a écrit ce livre. Elle est également de métier graphiste. Et donc elle s'est spécialisée dans les couvertures de livres. Elle nous parlera de ce métier, donc dans un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, 12h passées de 2 minutes. Bon appétit, bien sûr, si vous avez la chance d'être devant une belle assiette. Et puis sinon, eh bien voilà, je vous propose l'essentiel de l'actualité. Et l'essentiel nous est mené par Émile Boudjemin.
Dans l'actualité ce matin, le Lot se souvient. Demain marque la date symbolique de la victoire de 1945. Plusieurs événements sont organisés dans la ville de Cahors, dont un village mémoriel qui s'installera de 10h à 18h sur les allées Fénelon, et un défilé militaire de 14h30 à 18h à Saint-Cyr-la-Paupide. Des témoignages audio de la vie dans cette période de guerre seront diffusés. Un appel au boycott est lancé. Depuis lundi, un cirque s'est installé sur la commune de Labarthe-sur-Lèze, une commune près de Toulouse, sans autorisation, selon la mairie qui demande aux habitants de boycotter les représentations. Demain aura lieu la fête de Notre-Dame de Seignac, au sud de Rodez, au programme des confessions à partir de 10h, une messe à 10h30. À 14h, un spectacle avec un regard original parsemé d'humour sur certaines rencontres avec Jésus, puis des vêpres de 15h45 pour clôturer la journée. Le deuxième pont du mois de mai arrive à nouveau ce vendredi. Fermeture exceptionnelle de la préfecture de la région Occitanie, de la Haute-Garonne, la sous-préfecture de Muret et de Saint-Gaudens. Malgré ces fermetures, la gendarmerie et les services de police nationale resteront ouverts. On sait enfin ce que va devenir l'ancienne cité administrative de Toulouse dans le quartier Compense-Caffarelli. Elle va être rachetée par le groupement Bouygues Immobilier, GA Smart Building et Eclis Promotion. Le futur projet sera axé principalement sur le logement. Enfin, la street culture s'invite à Montauban. L'événement des rimes urbaines se manifestera dans les différents lieux emblématiques de la ville de 14h à 19h. Plusieurs initiations à la culture urbaine comme le breakdance, le graph, le skate, le BMX ou le basketball seront au rendez-vous.
Quel programme! Merci beaucoup, Émile Boudjemin, donc, qui est notre partenaire tout au long de cette saison radiophonique avec les écoles de journalisme de Toulouse et puis de Blagnac. Voilà, un grand merci à eux. Et puis, on retrouvera tout à l'heure le journal de la mi-journée qui nous sera présenté cette fois-ci par Coralie Guénan, donc, de l'école de journalisme de Toulouse. Dans quelques instants, on parlera du conclave avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, père Michel Dauban. Mais en attendant, on écoute un peu de musique. On écoute la belle voix de Morane.
J'entends la vie qui tangue. J'écoute mon cœur qui bat. Que soient les mots, les langues, quand l'humain danse, tout va. Question de tempo, pas de temps. Envie de me dire doucement, tout doucement, tout doucement. Pourquoi, pourquoi ne danses-tu, ne danses-tu pas? Pourquoi, pourquoi,
pourquoi ne danses-tu,
ne danses-tu pas?
Danse tout va.
Havane. Les rites sacrés des Sioux. Des soufis ou des tziganes. Quand l'humain balance tout, c'est une question d'amour. Dans le sang, envie de nous dire doucement, tout doucement, tout doucement. Pourquoi, pourquoi ne danses-tu, ne danses-tu pas? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ne danses-tu, ne danses-tu pas? Pourquoi, pourquoi ne danses-tu, ne danses-tu pas? Pourquoi, pourquoi, quand l'humain, quand l'humain danse.
À Belmont-sur-Rance, 93.1.
Alors que s'ouvre aujourd'hui à Rome le conclave appelant les cardinaux du monde entier à se rassembler pour élire le futur successeur de Saint-Pierre, l'Église universelle retient son souffle et Lourdes n'échappe pas à la règle. Père Michel Dauban, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le recteur du sanctuaire de Lourdes. Merci d'être avec nous en ce jour si particulier. Père Michel Dauban, comment le sanctuaire de Lourdes vit-il cet événement d'église d'une portée mondiale ?
Alors, le sanctuaire dans son ensemble, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je peux parler de la manière dont le vivent les chapelains, la manière dont le recteur le vit, à savoir dans la prière, évidemment, puisque ça fait un certain nombre de jours où nous prions à la fois pour le repos de l'âme de notre défunt pape François et puis en même temps pour les cardinaux qui ont une grosse responsabilité à partir de d'aujourd'hui, comme ils l'ont eu d'ailleurs à l'occasion des différents échanges jusqu'à ce jour. Et puis nous prions évidemment pour celui que l'Esprit Saint va appeler au siège de Pierre.
C'est vrai, les cardinaux sont nombreux à passer à Lourdes chaque année. Donc, à Lourdes, on est souvent familier des cardinaux qui sont en conclave aujourd'hui. Vous en connaissez particulièrement ?
Alors, des cardinaux... à Lourdes, tout le monde connaît le cardinal Bustillo, de fait. Le cardinal Aveline également. Bref, voilà, les cardinaux français qui passent parce qu'ils sont vraiment chez eux. Alors, les autres le sont aussi. Mais, de fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une connaissance individuelle de tout ce qui passe venant d'Italie ou d'ailleurs. Mais de fait, oui, il y a quelques affinités qui se sont créées. Peut-être qu'on peut évoquer d'ailleurs les cardinaux qui sont déjà passés.
Oui,
il y a à la fois les papes, évidemment, qui sont venus dans l'exercice de leur ministère pétrinien, et puis les cardinaux qui sont venus avant d'être papes, et ils sont nombreux.
Et ils sont nombreux, ils sont combien ?
Ils sont nombreux, ils sont sept depuis le début du XXe siècle. Alors, je peux les citer, mais alors permettez-moi de reprendre
mes
fiches.
Prenez vos notes. Non, mais c'est vrai que c'est bien de se dire ça.
Donc, le premier, c'est le pape de la Première Guerre mondiale, c'est Benoît XV. Ensuite, il y a eu Pie XI qui a été pape jusqu'en 1939, jusqu'à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Pie XII est venu à Lourdes en 1935 et Pie XII, nous avons un attachement particulier à lui, à sa figure, parce que c'est le pape qui a rédigé une encyclique consacrée au pèlerinage de Lourdes, publiée le 2 juillet 1957.
Et ça, donc, c'est un événement.
C'est un événement parce que c'est unique. C'est unique. Pas d'autre sanctuaire n'a bénéficié de cette grâce, de ce soutien, avec ces lignes extrêmement belles. Et puis alors par la suite, alors le cardinal Roncalli, qui quelques jours, quelques semaines avant d'être élu pape, est venu ici pour la bénédiction de la basilique Saint-Pédis, où a lieu la messe internationale.
Il est devenu Jean 23.
Mmh. Et puis ensuite, bah, évidemment, on a alors, c'est beaucoup plus récent, le cardinal Montini, le futur pape Saint Paul VI aujourd'hui, et puis Jean-Paul Ier, le cardinal Luciani, Jean-Paul II, le cardinal Boacuila, polonais, et puis voilà.
Et ça veut dire donc 7 cardinaux qui sont venus avant de devenir pape, et puis aussi 3 visites papales en 25 ans.
Oui, c'est ça, les deux visites de Saint Jean-Paul II.
En 83 d'abord.
En 83 et en 2004. Donc le 83, il aurait dû venir avec à l'occasion du congrès eucharistique international, mais de fait l'attentat dont il avait été victime l'a contraint à reculer simplement de quelques mois cette visite ici à Lourdes. Et puis il est venu en 2004 où là du coup la maladie et la fragilité le marquaient, et c'est d'ailleurs ce qui a beaucoup marqué le sanctuaire de Lourdes et l'église de France et l'église universelle d'une manière générale. Et puis Benoît XVI est venu, le cardinal Ratzinger, mais il est venu en tant que pape en 2008 à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions, et ce voyage aussi fut mémorable et reste dans les mémoires.
Selon vous, pourquoi les papes sont-ils aussi proches de Lourdes?
Ben, les papes sont proches de Lourdes parce que ils sont proches de la Vierge Marie, et le sanctuaire de Lourdes n'est pas un sanctuaire tout à fait anodin, tout à fait banal à bien des égards. Et de fait, c'est depuis le Concile Vatican II, du reste c'est l'Écriture, hein, c'est l'Évangile de Saint Jean qui nous le dit, c'est la place prééminente de Marie au sein de l'Église, et d'une certaine manière mère de l'Église. Figure, alors pas tête de l'Église, la tête de l'Église bien sûr c'est le Christ, c'est son fils Jésus, mais de fait Marie occupe une place particulière à la croix dans l'Évangile de Saint Jean. Jésus désigne Marie à Saint Jean en disant « Voici ta mère » et ensuite il se tourne vers sa mère pour dire à propos de Saint Jean « Voici ton fils ». Donc il y a une particularité éminente du positionnement de la Vierge Marie par rapport à l'Église que conduit le pape. Et de fait, alors on pourrait rajouter évidemment un deuxième argument qui est tout à fait fondamental aussi, c'est le sanctuaire de Lourdes étant un sanctuaire où la fragilité a toute sa place, où les malades occupent la première place, où tous les petits, tous les blessés, beaucoup de blessés de la vie viennent, dans la mesure où le pape est là pour être le garant de l'annonce de l'Évangile, il est assez logique qu'il accorde une place particulière à ce sanctuaire où de fait se vit vraiment concrètement ce que nous dit aussi l'Évangile de Saint-Luc, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux petits, aux malades.
Et ça, vous pensez que cette pastorale qui se vit ici en acte à Lourdes pourrait inspirer le nouveau pape? C'est peut-être un peu audacieux comme question.
Alors, bien écoutez, je suis convaincu qu'elle a inspiré les papes précédents et qu'elle a vraiment inspiré le pape François. Donc, quelle que soit la figure du prochain, je suis convaincu qu'elle l'inspirera. C'est clair, c'est évident.
Selon vous, quelle qualité devrait avoir le prochain pape pour répondre aux défis de l'Église?
Alors je garderai bien de répondre à cette question parce que je ne sais pas. Les cardinaux, là, pendant les jours qui ont précédé, ont précisément tenté de répondre à cette question, et ils ont sûrement de très très beaux éléments de réponse. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Saint-Père, comme tout prêtre, comme tout évêque, mais j'allais dire comme tout chrétien, comme tout croyant, ce doit être un homme de prière. Donc, de fait, cet attachement à la Vierge Marie, il est vraiment fondamental parce que elle est celle qui nous guide, elle est celle qui nous protège, elle est celle qui nous conduit, elle est celle qui nous écoute, qui nous parle et qui nous donne d'avancer dans la foi. Alors après, par rapport au ministère pétrinien, il y a évidemment ce souci de la communion, ce souci de l'unité de l'Église. Alors, une unité qui n'est pas uniformité, mais une unité qui qui honore les différentes diversités et qui fait tout pour qu'elles soient maintenues ensemble. Donc c'est un exercice délicat, oui, de communion et de fait, dans le cas de cette communion, de témoignage de la bonne nouvelle qui est annoncée aux hommes et aux femmes de ce temps, et pas d'hier et pas de demain non plus.
Vous avez célébré aujourd'hui, même présidé une grande messe internationale et prié particulièrement pour les cardinaux. Comment avez-vous vu, perçu l'attente que vivent les pèlerins ici présents à Lourdes ? Sont-ils dans la crainte, dans l'espérance ? Comment percevez-vous cette atmosphère?
L'attente, elle est par certains aspects, c'est sûr, un petit peu fébrile, puisque on consulte les catalogues des papabilés, mais fondamentalement, elle est vécue dans la prière, elle est vécue dans la confiance, parce que nous sommes convaincus que le pape, c'est celui que l'Esprit Saint donnera à l'Église, parce que c'est celui que Dieu veut pour aujourd'hui. Donc il y a une réelle confiance. Une attente sereine qui va se déployer, qui va se concrétiser au fil des quelques heures, des quelques jours.
Cette année jubilaire ne s'arrête pas, même si on quitte un pape et on accueille un nouveau, donc elle va également se poursuivre à Lourdes toute l'année.
Oui, l'actualité ne ralentit pas, bien au contraire, donc nous sommes dans la continuité de cette année jubilaire qui est belle, parce que de très nombreux pèlerins viennent et d'autres sont annoncés dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Peut-être que on peut retenir deux paroles. Alors évidemment, c'est soyons des témoins des pèlerins d'espérance, puisque avec Marie nous sommes invités dans le sanctuaire à être et à devenir toujours plus fondamentalement des pèlerins d'espérance. Je reprends pour reprendre aussi l'actualité avec l'élection du futur pape, à la fois cette parole qui fut celle de Jean-Paul II, le jour d'ailleurs de son élection en 1978, n'ayez pas peur. Donc demeurons dans la confiance, dans l'espérance, et en même temps soyons dans la joie, puisque l'année jubilaire, c'est une année qui est faite pour jubiler au titre du fait de la foi qui nous anime, et donc nous avons tous les éléments à la fois pour ne pas avoir peur, éminemment en ce temps pascal, et en même temps pour être vraiment dans la joie de la résurrection, la joie de la vie nouvelle que le Seigneur ne cesse de nous accorder.
Merci Père Michel Dauban. Une dernière question avant de nous quitter. Ce nouveau pape, vous allez l'inviter à Lourdes ?
C'est l'évidence même.
Bon, alors on est dans l'attente. Merci beaucoup Père Michel Dauban d'être le recteur du sanctuaire. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Radio Présence à Cahors, 92.5. Truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine, polichinelle, voyage en Chine, t'as du nickel, j'ai des usines, t'as du platine, mais pas de bretelles, ton archipel pour ma turbine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, toi t'as Cuba, moi ton Bouctou, tu prends le Pérou, moi l'Angola. Truc et ficelle, troc et combine, d'Aix-la-Chapelle à Constantine, du grand cocktail ou lombadine, à la demoiselle très très câline, qu'à des roussels à trois vitrines, des caravelles et de l'aspirine, t'as des cervelles qui t'enquiquinent, tu démantèles, moi j'endoctrine, et si je recule mon cavalier, tu prends mon pion mais moi ta tour, si je te laisse faire à Singapour, ça fait rentrer 1000 tonnes d'acier. Truc et ficelle, troc et combine, de Compostelle à Tien-Sin-Sin, de grand cartel en saccharine, de clientèle en cocaïne, fais mes usines en Israël, t'as des diesels mais pas de benzine, j'ai de la farine, t'as pas de cheptel, de colonel pour ta ballerine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, t'as Panama pour faire joujou, touche au papou, je prends l'Ouganda. Truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, le grand hôtel en limousine, Papa Noël en Palestine. T'as de la Javel, j'ai pas de piscine, t'as des rebelles qui se mutinent, un caramel, une carabine. Et si j'avance un peu ma reine, te v'la bloquer sur les deux cases, un incident près du Caucase, échec et mat à moi l'Yémen. Truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine.
Présence à Sévrac-le-Château, 102.3. À Bagnères de Bigorre, 88.9.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, le Lot se souvient. Demain marque la date symbolique de la victoire de 45. À l'occasion et pour honorer la mémoire, plusieurs événements seront organisés dans la ville de Cahors. En plus des commémorations prévues, un village mémoriel s'installera de 10 à 18 heures sur les allées Fénelon. Un défilé militaire de 14h30 à 18h et à Saint-Cyr-la-Popie, des témoignages audio de la vie dans cette période de guerre seront diffusés. Un appel au boycott est lancé. Depuis lundi, un cirque s'est installé sur la commune de Labarthe-sur-Lèze, une commune près de Toulouse, sans autorisation selon la mairie qui demande aux habitants de boycotter les représentations. Le maire de la ville de 6500 habitants en profite pour appeler son opposition face à l'utilisation d'animaux sauvages dans les attractions. Demain aura lieu la fête de Notre-Dame de Seignac au sud de Rodez. Au programme, des confessions à partir de 10h, une messe à 10h30. À 14h, un spectacle avec un regard original parsemé d'humour sur certaines rencontres avec Jésus. Puis des vêpres à 15h45 pour clôturer la journée.
Un nouveau pont pointe le bout de son nez, Coralie.
En effet, Jonathan, le deuxième pont du mois de mai arrive à nouveau ce vendredi. Fermeture exceptionnelle des services de l'État. Parmi eux, la préfecture de la région Occitanie, de la Haute-Garonne, la sous-préfecture de Muret, de Saint-Gaudens. Et malgré ces fermetures, comme la semaine dernière, la gendarmerie et les services de la police nationale resteront ouverts. On sait enfin ce que va devenir l'ancienne cité administrative de Toulouse dans le quartier Compense-Caffarelli. Elle va être rachetée par le groupement Bouygues Immobilier, J Smart Building et Eclis Promotion. Le futur projet sera axé principalement sur le logement. D'ailleurs, l'un des bâtiments avait d'ores et déjà été mis à disposition du Crous pour créer une résidence universitaire. Enfin, la street culture s'invite à Montauban. L'événement des rimes urbaines se manifestera dans différents lieux emblématiques de la ville, cours du musée Ingres Bourdelle, parvis du théâtre Olympe de Gouges ou encore le parvis de l'église Saint-Jacques. De 14 à 19h, plusieurs initiations à la culture urbaine, comme le breakdance, le graff, le skate, le BMX ou le basketball seront au rendez-vous.
Présence sur le plateau de Lannemezan. 92.2.
Un jour, un livre. Un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur. Les semaines s'enchaînent tranquillement. Et quel plaisir, bien sûr, d'être avec vous, Philippe Noni et Diego Arabal.
Eh bien, un grand plaisir partagé, Philippe et Philippe.
Eh bien oui, bonjour Philippe Subercaz et bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe. Et puis, aujourd'hui, nous avons une invitée au téléphone.
Je vous laisse bien sûr le soin de nous la présenter.
Alors, cette invitée au téléphone, c'est Nathalie Glevarec, que je reçois pour « Derrière la vengeance », un roman policier. Donc bonjour Nathalie, c'est votre premier roman. Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Diego, bonjour les deux Philippe du coup.
Voilà, on est sur Radio Présence et on va donc présenter cette dernière vengeance. Alors comme d'habitude, je vais faire une petite lecture de concernant votre roman. En 1947, Héloïse et son fils Hubert quittent précipitamment leur propriété à Saint-Vincent de Tyros, dans les Landes, pour se réfugier à Bordeaux. Tous deux fuient le harcèlement d'un notable local, Maurice Rivaud. 70 ans plus tard, en 2017, Georges Rifaud, le fils de Maurice, est victime d'un accident de chasse. L'enquête de routine de la major Alexa et de son collègue Alain va vite changer d'angle à la suite d'une remarque de Denise Grabeau, l'ancienne institutrice du village, sorte de Miss Marple locale. 4 accidents de chasse en 5 ans, c'est peut-être beaucoup pour du hasard, non? C'est dans des allers-retours entre 1947 et 2017 que Nathalie Glevarec construit patiemment la toile de fond de son roman. De Saint-Vincent de Tyros à Bordeaux, la vie de ses personnages s'éclaire et le lecteur peut échafauder ses hypothèses à l'instar des gendarmes. L'auteur tisse avec brio et d'une plume sûre les fils de ses destinées chaotiques. Elle reconstitue avec justesse le climat de l'immédiate après-guerre et brosse finement les caractères des protagonistes de l'histoire. Pour son premier roman, Nathalie Glevarec nous convainc, car son coup d'essai est un coup de maître. Derrière la vengeance, Nathalie Glevarec, édition France Libris. Voilà ma façon de parler et de lire votre livre. Alors, cette histoire de vengeance, comment ça vous est venu?
Alors, cette histoire de vengeance, oula. Ce roman a été écrit à la base pour mon papa, rien que pour lui. Parce qu'en 2019, je pense, Diego, que tu te souviens de Pierre Léoutre qui faisait des salons du Polar.
Oui.
Dans le Gers, avec l'association Le 122. En 2019, il m'avait demandé d'écrire une nouvelle pour son concours. Il n'en avait pas assez, tout ça. Bon, j'ai hésité. Au départ, j'ai dit non, non. Moi, je joue avec les images, je joue pas avec des mots. Et puis bon, du coup, je me suis pris au jeu et j'ai écrit une nouvelle. En décembre 2019, j'offre le recueil de nouvelles à mon papa, puisque ma nouvelle avait été prise par le comité de lecture. Mmh. Et quand on a fêté ses 90 ans, début mars 2020, mon papa, au dessert, me dit « mais c'est très bien, tout ça ». Je dis « bon, ben oui, c'est mon papa, donc il trouve que c'est bien ». Mais il m'a dit « mais tu t'en as pas mis assez ». Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, oui, il y a toute cette histoire de vengeance qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Tu aurais pu expliquer des tas de choses. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses abominables. Et là, je lui dis, mais c'est une nouvelle, c'est pas un roman. Et puis, bon, je vais essayer de faire bref. En rentrant, je me suis dit, bon, mais je vais écrire la suite pour mon papa. Il sera content, tout ça. Parce que lui, quand il était petit... il avait 9 ans quand la guerre a commencé, donc il a vécu, lui, des choses...
Oui, il était déjà en âge de comprendre ce qui se passait et de vraiment être touché émotionnellement par ce qui se passait, oui.
Tout à fait, et puis cette période, bon, mais l'a bien marqué, et il nous en parlait d'ailleurs assez régulièrement... Et du coup, bon, alors j'ai pas écrit le livre de suite, parce que, ben, comme je suis graphiste, j'ai eu du travail, puisque je l'ai peint dans le confinement, les auteurs écrivaient. Mmh. Donc je n'ai commencé l'écriture qu'en 2022. Et donc voilà, 2022, 2023, et puis bon, je l'avais imprimé en format A4 pour mon papa, il l'a lu, il était tout content. Et puis je l'ai fait lire à des amis auteurs qui avaient su que j'avais fait la nouvelle. Et notamment Serge Tachon, qui lui avait lu la nouvelle également, qui m'a dit « mais ne laisse pas cette nouvelle, ce roman, dans ton ordinateur, fais-en quelque chose ». Donc voilà, alors je l'ai envoyé dans une maison d'édition qui l'avait trouvé bien, mais il fallait que je fasse des modifications qui, au fin de compte, ne me plaisaient pas trop. Et du coup, comme deux autres auteurs, il y avait Alain Roumaniac et Max Bartin qui l'avaient lu, puisque eux m'ont servi pour mes gendarmes, m'ont servi de modèle.
Pour les gendarmes, oui.
Voilà, tout à fait. Et là, eux aussi m'ont dit, ils l'ont lu et m'ont dit non, non, tu. Du coup, bon, mais j'ai pris une correctrice. Et puis voilà, je suis partie à l'aventure avec l'édition de ce livre.
D'accord. Et c'est quand même une très belle histoire, cette histoire d'Héloïse. Vous vous basez sur des faits réels quand vous en avez parlé avec votre papa. Il vous a raconté des choses qui ont étoffé votre roman ou c'est simplement de l'imagination?
Alors, si on part sur le côté spoliation, il y a eu plein de choses que j'ai vues, que j'ai lues. Donc, du coup, je pense que c'est tout un ensemble, c'est-à-dire qui m'a donné cette idée-là pour Héloïse. Ensuite, le fait que mon père m'ait raconté des choses m'a servi pour... Par exemple, quand le résistant basque, avec son camion, fait des allers-retours dans les Landes, ça, cette histoire de camion où on cache dedans des choses, ça c'est arrivé parce que mon père m'a raconté des choses par rapport à son beau-frère, puisque mon père était d'une fratrie de 6 enfants, il était le petit dernier, il avait 5 sœurs, il avait déjà un beau-frère quand il avait 9 ans, et qui lui était transporteur. Voilà.
D'accord, donc, voilà, donc vous vous êtes basé sur des faits réels. Vous avez travaillé aussi sur des archives pour cette période, sur les passages qu'il y avait sur le fonctionnement des maquis?
Tout à fait, parce que la nouvelle était dans Gers, c'était une obligation pour le concours de nouvelles. Et après, quand j'ai décidé d'écrire pour mon papa, ce qui s'est passé, c'est que je voulais savoir ce qui s'était passé à la Résistance dans les Landes. Donc, du coup, je l'ai rapatrié dans mon coin. C'était plus facile pour moi de décrire, par exemple, Tyros, de tous ces lieux, puisque je les connaissais.
Oui, c'est des lieux que vous connaissez parce que vous habitez dans le coin aussi.
Voilà. Puis je suis remontée à quelques années où moi j'ai connu, par exemple, des boutiques qui n'existent plus, des choses comme ça. Donc, c'était bien de le mettre. Et je suis allée, j'ai passé deux journées aux archives départementales de Mont-de-Marsan pour savoir ce qui s'était passé donc pendant la guerre. Parce que, et c'est là que j'ai appris que Tyros, c'est toute la bande littorale, était une zone interdite. À cause de la construction des blocos.
Oui, du mur de l'Atlantique, ouais.
Donc, enfin voilà. Et puis donc j'ai donc mélangé un petit peu des faits réels qui m'ont servi d'appui, en fin de compte, pour mon histoire tout à fait inventée.
Ah oui. Mais là, ces personnages sont intéressants parce que il y a cet enfant, Hubert, qui va être extrêmement perturbé par le fait que sa maman décide qu'ils partent et qu'ils quittent leur domaine, puisqu'ils partent de leur domaine. Il va être très perturbé par cela. Et malgré tout, il va se construire une vie avec un père de substitution parce qu'il ne connaît pas son père.
Non, il ne connaît pas son père. Alors, je ne dirais pas pourquoi, parce que...
on ne va pas divulgâcher.
Pardon. Oui, voilà. Mais oui, il ne va pas le connaître. Et c'est vrai qu'en plus, sa maman, qui est quand même courageuse et forte, elle est quand même elle-même dans des situations très critiques, quoi. Elle doit tout reconstruire dans un endroit qu'elle ne connaît pas vraiment. Bon, heureusement, elle est un petit peu épaulée. Mais et cet enfant a un problème avec son nom de famille. Enfin, son nom de famille, dans les conditions où ils vont vivre à Bordeaux, va lui créer des problèmes quand même.
Et oui, donc, ça va être plus un poids pour lui que un élément positif.
Oui, voilà. Et donc du coup, et puis il est fragilisé parce que bon, c'est vrai, il avait 5 ans. Alors des fois, à 5 ans, on se rappelle pas de tout. Mais lui, s'en rappelle parce que il se rappelle de son départ, de tout ce qu'on lui avait promis aussi qu'il n'aurait pas. Et un enfant, quand on lui promet quelque chose, ben il vaut mieux le tenir parce que sinon il est un peu rancunier, quoi.
Ben oui, c'est un petit peu logique. Et puis il y a cette belle histoire là de Hubert. Et puis il y a la belle histoire aussi de Denise Grabeau qui est une sorte de Miss Marple là, qui va en fait déclencher vis-à-vis de d'Alexa, la gendarme, elle va déclencher une enquête, alors que a priori tout semblait rouler sans problème. Elle va déclencher une enquête qui va mener jusqu'à découvrir que ces accidents de chasse n'en sont pas. Donc là, on divulgue gâche rien, parce que c'est un peu évident, mais c'est quand même cette Miss Marple, elle est un personnage que vous avez rencontré, que vous avez connu, ce type de personne ?
Alors, j'adore regarder Miss Marple, Poirot, tout ça. Donc, je pense que bon, il y a des choses comme ça qui insidieusement me sont tombées dessus quand j'écrivais. La chose sur Miss Marple, sur Denise Grabeau, c'est que quand j'ai écrit la nouvelle, je savais qui avait tué, qui était les victimes, et je savais pas comment les gendarmes, eux, dans l'enquête, allaient le savoir. Bon. Et donc, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me mette à écrire, Pierre attend la nouvelle, tout ça. Donc, j'ai commencé à écrire. Alors, ce qui est dans mon roman, parce que j'ai fait un prologue dans le roman, et là, il y a un premier chapitre. Et donc, ma nouvelle commençait directement au premier chapitre, c'est-à-dire la scène au cimetière, quand on fait les obsèques donc du président des chasseurs. Et donc, je commence à décrire un petit peu l'ambiance, tout ça. Et puis, je crois que c'est la troisième phrase. Je crie Denise Grabot, institutrice retraitée. Nana. Puis je finis ma phrase et je me dis, mais c'est qui, elle? J'avais tout noté, mes personnages, moi, dans un cahier, tout ça. Je regarde, je dis, mais c'est qui? Alors, je m'arrête et là, je me dis, ah, mais... J'ai dit, bon, mais ça y est, c'est mon fil conducteur. Elle va savoir des choses et elle va les distiller. Et c'est comme ça que Denise Grabot est arrivée. Et alors, une petite chose, c'est qu'ensuite, quand je suis passée au roman, du coup, bon, je devais étoffer un petit peu l'enquête, mais surtout, tout créer la partie historique et pouvoir bien l'incorporer dans l'enquête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va faire le lien? Alors, Denise faisait quand même un peu le lien avec le passé, évidemment. Mmh. Mais il fallait un rebondissement dans cette histoire du passé, parce que Denise pouvait pas tout savoir non plus. Et là, là par contre, la chance du débutant avec Denise, je me suis dit, je vais pas l'avoir pour le roman, il va falloir que je réfléchisse. Et puis, eh ben, en réfléchissant, je me suis dit, bah, un curé. Donc, on a un curé basque à Tyros dans ma fiction. Voilà.
Un personnage important, d'ailleurs, parce que il a peu de scènes dans le roman. Il en a 5 ou 6 seulement. Mais disons que c'est quand même lui qui est le pivot des révélations, en fait.
Voilà, tout à fait. Et mine de rien, enfin, je pourrais dire presque mine de rien, oui, parce que il avait eu la chance d'avoir un grand-père qu'il avait eu, quoi. Enfin, tout le monde a eu de la chance, d'ailleurs, qu'il avait ce grand-père.
Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que si il n'avait pas eu ce grand-père, s'il ne lui avait pas raconté ses histoires, s'il n'avait pas non plus le flair d'aller chercher dans les archives paroissiales, il est clair que les gendarmes n'auraient absolument pas pu résoudre cette enquête.
Tout à fait. Des éléments extérieurs qui font que ça matche.
Alors, on va peut-être laisser là le roman, en disant que maintenant, c'est aux auditrices et aux auditeurs d'aller se plonger dedans et de revivre ce petit moment... de 3 ans quand même, puisque vous racontez 3 ans de la Deuxième Guerre mondiale dans la région de Tyros. On va laisser ça pour les lectrices et les lecteurs qui nous écoutent et qui vont aller lire votre roman. Mais on va parler d'une autre facette de votre activité, c'est-à-dire que, en fait, là, vous avez démarré de l'écriture, mais vous êtes graphiste au départ, hein ?
Oui, tout à fait.
Et donc, vous réalisez des couvertures. Donc, vous avez réalisé la couverture de votre roman. Ça, c'est normal. Hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais vous avez... la semaine dernière, nous avons reçu un auteur, Chris Raveri, que vous connaissez bien, et pour lequel vous avez réalisé une couverture. Vous réalisez beaucoup de couvertures ou c'est un élément secondaire dans votre travail de graphiste?
Alors, d'abord, le fait de faire des illustrations, des couvertures et puis même des bandes annonces vidéo pour la sortie de romans, je suis installée en tant que graphiste littéraire. Alors, il est évident que derrière, j'ai une formation de graphiste classique, affiches, flyers, logos, tout ça. Je me suis spécialisée dans la littérature, tout simplement parce que il y a quelques années, je cherchais du travail. En même temps, depuis 2015, je vais dans les salons du livre, je rencontre des auteurs, je discute avec eux, je les prends en
photo. Dont vous faites de très belles photos.
Merci. Et pour faire des commentaires de mes lectures, j'ai créé un blog en 2015 qui s'appelle Images de roman. Et là, je faisais un petit peu l'illustration de ce que m'avait inspiré la lecture, hein, avec les mots. D'ailleurs, je prenais les mots, ça me donnait un sentiment, ça me donnait des impressions. Et j'essayais de les reproduire en images, notamment avec... plutôt du photomontage, mais après, bon, le client, s'il veut autre chose, il a autre chose. Et donc voilà, et après je faisais mes commentaires. Et là, beaucoup de personnes ont pensé que c'était mon métier. Et ça ne l'était pas, puisque moi j'étais en recherche d'emploi à ce moment-là. Et du coup, on a commencé à me demander quelques illustrations, après des couvertures complètes. Et là, j'ai dit, je m'installe. Donc je me suis installée, et en faisant vraiment que pour de la littérature. Donc voilà, je fais aussi de la mise en page intérieure, des romans,
du maquettage, oui.
Voilà, je fais les intérieurs. Là, je viens d'en finir un, mais qui n'est pas encore sorti. C'était sur un livre qui est, alors là, un livre éducatif, je dirais, sur l'écosystème des mares. Enfin, voilà, ces choses-là, donc très, très spécifiques. Parce que la mise en page de romans est relativement simple à faire. Et je fais également des book trailers ou des teasers, selon comment on les appelle. Et là, les auteurs me donnent quelques mots-clés de leur roman. Alors, c'est vrai que je les lis par moment, surtout les auteurs que j'ai depuis le début de mon aventure de graphiste littéraire. Et ils me donnent des mots-clés. Et comme moi, j'ai lu également le roman, j'essaie de trouver des images, de créer des choses en vidéo. Donc des fois je fais du montage de l'animation 2D aussi avec un logiciel. Et quand je réalise des illustrations de couverture, en général, ça c'est le trois quarts du temps, je lis le manuscrit et je fais comme quand je faisais pour mon blog Images de roman. Je crée donc une illustration que je soumets à l'auteur. Soit ça passe tout ça de suite, soit l'auteur des fois me dit « Ah, et si on faisait un peu ça ?» Et là, on va peut-être par moment le retravailler aussi.
D'accord. Donc là, vous êtes quand même, parmi les graphistes que je connais, vous êtes un des rares graphistes qui travaille après lecture du roman. La plupart du temps, les graphistes avec lesquels moi j'ai eu l'occasion de travailler partaient sur un pitch que réalise l'auteur ou que réalise l'éditeur. Pour construire l'image et l'illustration. Donc vous lisez le roman, ça doit vous prendre quand même temps systématiquement.
Oui, mais comme je lis le soir, que je lise un livre que j'ai reçu en service presse ou que j'ai acheté ou que je lise le manuscrit, pour moi ça change pas grand chose dans la lecture. Après, ce sont les auteurs que j'ai et qui m'ont contacté parce qu'ils trouvaient que ce que je faisais dans mon blog leur plaisait. Mmh. Et comme ils savaient comment je fonctionnais dans le blog, ils voulaient que je travaille comme ça pour eux. Voilà. Mais ça m'est arrivé d'avoir d'ailleurs que la quatrième de couverture sans savoir ce qu'il y a dedans, sans connaître les sensations. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé un jour de travailler pour une petite maison d'édition. J'avais que la quatrième de couverture et le titre. J'ai fait des illustrations. C'est passé. Ça a été validé et tout. Et quand moi, par la suite, il y en a un livre comme ça, quand je l'ai lu, j'avais totalement une vision différente. Et je m'étais amusée, moi, dans mon blog, à faire l'image que j'avais eue.
À refaire la première.
Et je me souviens de la réaction quand je l'ai mis sur Facebook de l'éditeur, parce que l'auteur disait « Ah ouais, elle est magnifique celle-là », alors que je lui avais fait l'origine, enfin celle qu'il y avait sur son livre. Et à ce moment-là, l'éditeur qui me met un petit post, ça me dit « Oui, dommage ». J'ai dit « Bon, alors j'ai dit là, mais oui, mais l'éditeur savait qu'il aimait, il trouvait que c'était waouh ce que je faisais dans mon blog, sauf qu'il m'a demandé de travailler comme à n'importe quel autre graphiste. Et depuis, quand je fais comme ça des couvertures pour des auteurs qui sont dans les maisons d'édition, ça m'arrive de faire au moins l'illustration. Quand je commente dans mon blog, je ne fais plus ça. Je ne le fais plus pour pas décevoir après qui que ce soit.
Oui, mais je veux dire, en règle générale, alors je sais pas si c'est le cas pour les maisons d'édition avec lesquelles vous travaillez, mais je veux dire, la maison d'édition vous passe une commande d'une couverture, mais après on retravaille la couverture. Je veux dire, vous avez quelqu'un qui est chargé de l'édition, on appelle ça un éditeur, mais c'est pas lui qui engage, hein, c'est la personne qui est chargée de sortir le roman, de le faire vivre, de le faire naître. Généralement, il y a un aller-retour avec le ou la graphiste pour pour affiner, pour modifier un peu. Donc c'est, je veux dire, si l'éditeur n'était pas content et trouvait que ben vous aviez réalisé quelque chose d'autre, peut-être qu'il n'avait pas pris le temps ni l'énergie nécessaire à vous faire retravailler jusqu'à ce que on obtienne quelque chose qui soit beaucoup plus accrocheur et beaucoup plus proche du contenu du livre, non?
Ah mais alors là, dans ce qui s'était passé là, c'était que ce que j'avais fait moi plaisait. Par rapport à ce qu'on m'avait dit, les directives, tout ça,
d'accord.
Ça collait.
Oui, non, mais ça collait. Mais après, quand ils ont vu ce que vous aviez fait spontanément, ils trouvaient que ça collait mieux.
Ben oui, tout à fait. Donc, enfin, voilà. Donc, je le refais plus.
Ouais, ben vous avez raison, parce que. Mais c'est vrai que c'est important. Bon, moi, je travaille avec une maison d'édition. Ben, on est souvent, je veux dire, on donne le pitch au graphiste et on retravaille ce qu'il nous a proposé avec l'auteur, qui, en fonction de ce que fait le graphiste, ben, va dire, ben, tiens, là, c'est pas tout à fait l'atmosphère de mon roman, là, etc. Parce que c'est vrai que le graphiste ne lit pas forcément. Vous êtes une des rares graphistes à lire.
Moi, je fais de ça dans l'artisanat, quoi. Je fais pas ça dans l'industrie. Donc, voilà.
Vous réalisez combien de couvertures? Vous réalisez combien de couvertures chaque année, puisque vous dites que vous travaillez dans l'artisanat?
Oh, moi, si je dois en faire une quinzaine.
D'accord. Ah oui, donc une par mois, ouais. Ça prend combien de temps de définir une couverture?
Ça dépend. Ça dépend parce que moi, quand j'ai une idée, il va falloir que je trouve les images qui vont, enfin les photos que je vais pouvoir prendre, découper les morceaux que j'ai besoin pour pouvoir après les rassembler dans un montage, tout ça. Ça peut prendre des fois une heure et demie à chercher des photos ou à les faire du coup, parce que des fois ça m'arrive de devoir les faire. Hein. Et puis il y a des fois c'est de suite. De suite je les trouve. Puis bon, maintenant j'ai une bibliothèque d'images qui est assez énorme. Donc heureusement pour l'instant j'arrive à me souvenir à peu près de ce que j'ai avant d'aller chercher sur le net. Et après c'est pareil, si je dois par exemple faire une illustration avec trois images, ça va aller plus vite que si je dois mettre cinq ou six éléments différents. Quoi. C'est aléatoire.
Enfin,
ouais, ça dépend.
Philippe, vous aviez encore une question.
Moi, écoutez, j'ai un rêve. Est-ce que vous pourriez essayer de refaire les couvertures d'un certain auteur qui s'appelle Diego Arrabal pour voir un peu ce que ça donnerait et voir l'écart
Et j'en ai fait une. Dans mon, alors pas qui n'existe pas qui n'a pas existé sur un livre.
Oui, qui n'est pas sorti en livre.
Si vous vous souvenez, Diego, moi j'ai lu je me rappelle plus triste. Il y avait vous aviez mis un singe sur.
Oui, le principe des trois singes.
Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai fait moi dans mon blog Images de Romans.
Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse entre vous là pour en discuter
Honnêtement, non, je me souviens pas, mais je pense que vous aviez fait quelque chose d'intéressant. Ouais.
Mon fils m'avait prêté son visage que l'on ne voit pas parce que et ses mains. Et il avait fait le principe des trois singes, avec même posé sur les yeux, sur la bouche et sur les oreilles.
Ah oui, ça y est, je me souviens. Ouais. Mais voilà, on ne reconnaissait pas. Moi, de toute façon, je ne savais pas que c'était votre fils, mais on ne reconnaissait pas la personne, justement, par la présence des mains, oui, effectivement.
Voilà, donc j'avais essayé de composer sur une main le principe des trois singes, quoi. Donc on s'était bien amusé avec mon fils. Là, j'avais pris en photo devant ma façade blanche. J'avais fait des photos. Puis après, je m'étais bien amusé quand j'ai tout découpé pour faire passer. Ah ben non, il faut que je fasse passer les mains des yeux sur les oreilles, mais après sur les mains des oreilles. Enfin bon, ça avait été un gros puzzle. C'était assez marrant.
Oui, je me souviens. Mais écoutez, Nathalie, le temps passe, on va devoir vous abandonner à l'écriture, à la réalisation
de couverture,
etc. Donc, je rappelle que nous recevions Nathalie Glevarec pour Derrière la vengeance aux éditions France Libris. À bientôt et au plaisir de vous revoir, chères auditrices et chers auditeurs. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence à Mirande, 104.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Priez pour que l'Esprit Saint donne un pape selon le cœur de Dieu pour le bien de l'Église et de l'humanité. L'invitation du